France Culture, le journal est présenté par Adrien Toffolet.
Bonsoir à tous. Vladimir Poutine dénonce un acte terroriste barbare, première prise de parole du président russe au lendemain de l'attaque meurtrière en banlieue de Moscou, alors que le groupe État islamique revendique l'attentat. Le dirigeant ne prononce jamais leur nom et cible l'Ukraine, ce qui laisse craindre le pire pour la suite de la guerre avec son voisin. Dans ce journal, Antonio Guterres à la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza, le secrétaire général de l'ONU réitère l'appel à un cessez-le-feu et se voit critiqué avec force par le gouvernement israélien. Nous serons également à Hong Kong, où la nouvelle loi de sécurité nationale est entrée en vigueur aujourd'hui pour museler un peu plus toute opposition contre la Chine. Et puis en France, meeting Les Républicains en ce moment près de Paris, la droite qui peine à se faire une place dans la campagne européenne et dans le paysage politique français. Le bilan des victimes n'est pas encore définitif. 133 morts et plusieurs centaines de blessés que Vladimir Poutine promet déjà de punir les responsables de l'attaque qui a eu lieu hier dans une salle de concert de la banlieue de Moscou. Attaque revendiquée par le groupe État islamique dans la soirée. S'en est suivie une chasse à l'homme des forces de sécurité russes pour retrouver les auteurs. Bilan 11 personnes arrêtées, dont les 4 assaillants présumés. Ce midi, le président russe en personne s'est exprimé pour la première fois depuis l'attaque. Adresse au peuple russe. Il dénonce un acte terroriste barbare et décrète une journée de deuil national demain. Un élément saute également aux yeux dans ce discours, aucun mot sur le groupe État islamique.
Les 4 auteurs directs de l'attaque terroriste, ceux qui ont tiré sur des personnes et les ont tués, ont été retrouvés et placés en détention. Ils ont tenté de s'enfuir et se diriger vers l'Ukraine où, selon les premiers éléments, une fenêtre leur avait été préparée du côté ukrainien pour franchir la frontière. Tous les auteurs, organisateurs et commanditaires de ce crime seront justement et inévitablement punis, qui que ce soit qui les ait dirigés. Un sort peu enviable attend les terroristes, les assassins, les sous-hommes qui n'ont pas de nationalité et ne peuvent en avoir une, le châtiment et l'oubli, ils n'ont pas d'avenir.
Voilà la réaction ferme de Vladimir Poutine ce midi. Dirigeons-nous vers Moscou. Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Adrien.
Correspondant de France Culture en Russie, le narratif poutinien est donc clair, une vengeance qui se dirigera vers l'Ukraine.
Oui, parce que dans son allocution de 5 minutes 24, pas une seule fois Vladimir Poutine n'a cité l'État islamique qui a pourtant revendiqué cet attentat, revendication qui semble crédible aux yeux de nombreux experts. La seule piste qu'ait donnée le chef du Kremlin, c'est donc celle de l'Ukraine, avant d'affirmer, vous l'avez entendu, que tant les auteurs que les commanditaires de cet acte seront pourchassés et punis, sans jamais d'ailleurs évoquer de procès ou de justice, mais plutôt la vengeance. Le châtiment. Concernant les 4 suspects, les autorités disent juste qu'ils ne sont pas de nationalité russe. Certaines sources avaient évoqué auparavant qu'ils puissent être originaires du Tadjikistan, un pays qui dans le passé a déjà fourni des bataillons de combattants à l'État islamique. Les 4 membres du commando, ou présentés comme tels par les services de sécurité russes, sont maintenant dans les mains du FSB, qui fait fuiter, sans doute volontairement, des vidéos où on les voit se faire interroger sur les lieux de leurs arrestations, dans une camionnette ou à l'hôpital. L'un d'entre eux est nu sur une autre vidéo, on voit un membre des forces spéciales commettre un acte de torture sur l'un d'eux qui hurle. Ces images ne sont pas montrées par hasard, elles sont cohérentes avec le ton du discours de Vladimir Poutine. Le chef de la faction de Russie Unie, le parti au pouvoir à la Douma, vient de dire d'ailleurs qu'il fallait reparler de la peine de mort alors qu'il y a un moratoire sur les exécutions en Russie depuis 1999.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou. De nombreuses condamnations ont été entendues de la part de la communauté internationale depuis hier. ONU, Union Européenne, Chine, Inde, France bien sûr. Manquaient les États-Unis et c'est désormais fait. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken condamne un acte odieux et le terrorisme sous toutes ses formes. Pendant ce temps, sur le front ukrainien, Moscou revendique une nouvelle avancée. L'armée russe, qui profite du manque de munitions de Kiev, affirme avoir pris le contrôle d'Ivanivské, près de Barmout, dans l'est de l'Ukraine, village qui se trouve dans une zone importante pour le Kremlin, qui lorgne à proximité sur Kramatorsk, l'une des grandes villes du Donbass aux mains de Kiev. La guerre en Ukraine qui s'invite aujourd'hui dans la présidentielle en Slovaquie, premier tour de l'élection présidentielle depuis depuis ce matin. Le président du Parlement, Peter Pellegrini, proche de la Russie, opposé à toute aide militaire à l'Ukraine, est le favori dans les intentions de vote, talonné d'un petit point par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Ivan Korkok, qui se trouve être pro-européen et qui soutient l'Ukraine. Un second tour est très probable entre les deux hommes le 6 avril prochain. C'était une visite hautement symbolique, mais qui ne passe pas auprès du gouvernement israélien. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, était aujourd'hui au poste frontière égyptien de Rafah, où il a rencontré des réfugiés gazaouis et des humanitaires. Réaction immédiate du ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, pour qui, sous le leadership d'Antonio Guterres, l'ONU est devenue une organisation antisémite et anti-israélienne qui abrite et encourage le terrorisme. Le secrétaire général de l'ONU, qui au contraire a de nouveau condamné l'horreur du 7 octobre, a quant à lui réitéré son appel au cessez-le-feu. On l'écoute.
Nothing justifies the collective punishment of the Palestinian people.
Rien ne justifie la punition collective du peuple palestinien. Aujourd'hui comme jamais, il est temps d'un cessez-le-feu humanitaire. Il est temps de faire taire les armes. Les Palestiniens de Gaza, les enfants, les femmes, les hommes sont immergés dans un cauchemar permanent. Communautés déconstruites, maisons démolies, générations entières anéanties, avec la peur et la faim qui écrasent la population.
Antonio Guterres à la frontière avec la bande de Gaza, direction Hong Kong à présent. C'est aujourd'hui qu'est entrée en vigueur une loi de sécurité nationale, un texte qui couvre de nouveaux crimes politiques qui n'étaient pas inclus dans la précédente loi, déjà draconienne, on s'en souvient, pour ne pas dire autoritaire, imposée par la Chine en 2020 pour réprimer les mouvements pro-démocratie. Les autorités locales se sont félicitées de ce moment historique de fierté collective, mais c'est loin d'être une fierté partagée par l'ensemble des citoyens hongkongais. Reportage de notre correspondante sur place, Florence de Changy.
Depuis le virulent resserrement sécuritaire à Hong Kong il y a 4 ans, il est très difficile de rencontrer des Hongkongais acceptant de commenter la situation politique. L'un d'eux, un infirmier d'une trentaine d'années, a accepté de nous parler à la seule condition que sa voix soit altérée, affirmant que la police avait la technologie pour retrouver une personne sur un seul extrait de voix.
Le message principal qu'ils veulent faire passer, c'est de réduire tout le monde au silence. C'est comme tirer sur un cadavre. On est déjà mort et on nous tire dessus une fois de plus.
Ailleurs, dans une ruelle d'atelier de mécanique, un employé nous dit qu'il préfère ne même pas connaître les détails de ces nouvelles lois. Pour le moment, notre seule option est de nous taire, nous dit-il en faisant le geste de se fermer la bouche avec le pouce et l'index. Mais pour cette comptable qui espère quitter Hong Kong prochainement, les Hongkongais qui pensent que cela ne change pas grand-chose se trompent.
Ma crainte, sachant que quand la loi de sécurité nationale est entrée en vigueur en juillet 2020, ils ont procédé à des arrestations dans les heures qui ont suivi. Cette fois, je ne sais pas qui vont être les premiers ciblés.
Les premiers ciblés pourraient être les manifestants de 2019 qui ont choisi de s'exiler pour éviter des poursuites en justice, ou plutôt les membres de leur famille restés à Hong Kong, car la nouvelle loi prévoit notamment de punir toute personne qui soutiendrait directement ou indirectement un fugitif.
En France, les uns après les autres, à moins de 3 mois des élections européennes, les partis lancent leur grand meeting d'entrée officielle en campagne. Renaissance, l'ERN, Reconquête et LFI ont occupé le terrain ces dernières semaines. Cet après-midi, c'est au tour d'un parti en difficulté dans les sondages d'intention de vote, autour de 7%. Ce parti, c'est les Républicains, en meeting près de Paris, où vous vous trouvez, Rosalie Lafarge, bonsoir.
Bonsoir.
La tête de liste, François-Xavier Bellamy, espère donner du souffle à sa candidature, car la droite joue tout simplement sa survie, Rosalie.
Oui, et pourtant l'ambiance est bien festive, il y a Aubervilliers. Les ténors de cette droite sont entrés ensemble, musique à fond sous les projecteurs avant de monter sur le ring pour lancer le combat avec un adversaire qui revient comme un fil rouge dans le discours du patron du parti, Éric Ciotti.
Oui, le macronisme, mes amis, est déjà finie.
Que nous lèguera-t-il ?
Monsieur Macron sera bientôt l'homme qui valait 1 000 milliards de dettes.
On ne s'improvise pas chef de guerre avec des gants de boxe.
Le chef de l'État cible aussi de la céréalière, deuxième sur la liste, Céline Imar.
Je suis fière, plus que jamais, de n'avoir jamais voté pour Emmanuel Macron. Car lorsque les deux quinquennats d'Emmanuel Macron s'achèveront, que restera-t-il ? Des mots, des palabres innombrables, des comités par douzaines, mais rien.
Et cible encore du numéro 3, le général Christophe Gomard.
Nous devons de continuer à soutenir l'Ukraine avec moins de mots, beaucoup moins de mots, mais plus de munitions.
Des huées dès que le nom d'Emmanuel Macron est prononcé, des applaudissements dès qu'il est critiqué, mais par rancunier, les LR rappellent tout ce qui aurait pu se laisser tenter par le macronisme à rentrer à la maison. Éric Ciotti.
Le 9 juin, n'égarez pas de nouveau votre vote. Revenez, revenez au milieu de vos valeurs. Rejoignez-nous, rassemblez-vous, levez-vous derrière les Républicains. Derrière François-Xavier Bellamy.
Le numéro 1 sur la liste en ce moment au pupitre décoche lui aussi ses flèches vers Emmanuel Macron pour clore ce que les LR espèrent être le point de départ d'un moment de clarification à 2 mois et demi des élections.
Rosalie Lafarge en direct d'Aubervilliers avec Éric Audra pour les moyens techniques. Demain, c'est le favori à gauche pour l'instant qui sera en meeting. Raphaël Glucksmann pour le PS et Place Publique réunira ses troupes à Toulouse. Européenne toujours, l'UDI officialise son ralliement à la liste de la majorité emmenée par Valérie Ayé à l'issue d'un conseil national du parti centriste qui s'est déroulé ce matin. Et puis François Bayrou reste président du Modem. Le maire de Pau a été réélu en congrès du parti ce matin sans difficulté, puisqu'elle était le seul candidat. Une nouvelle vague de menaces d'attentats en ligne contre des établissements scolaires. 122 lycées et collèges, des académies de Lille et d'Amiens ont reçu des messages agressifs annonçant des attaques lundi prochain. Messages reçus via leurs espaces numériques de travail qui ont été piratés. Rectorat et chef d'établissement ont déposé plainte. La sécurité de certains des lieux visés sera renforcée. Mercredi et jeudi déjà, des menaces du même type ont été envoyées à une cinquantaine d'établissements d'Île-de-France. Deux disparitions pour terminer, celle du pianiste italien Maurizio Pollini, un des virtuoses du XXe siècle, capable de révolutionner la perception de compositeurs comme Chopin, Debussy et Beethoven lui-même, et de pousser à l'écoute des avant-gardes, selon les mots utilisés par la Scala de Milan, qui annonce le décès de Maurizio Pollini, aujourd'hui à 82 ans. Et puis, autre monde, autre registre, l'acteur et comédien de doublage Daniel Beretta est décédé la nuit dernière, voix française d'Arnold Schwarzenegger, celle du chandelier Lumière également dans La Belle et la Bête de Disney. Il avait 77 ans. Le temps de demain, c'est l'automne qui revient. Des nuages quasiment partout le matin. Un peu de pluie à l'est l'après-midi et des températures qui baissent encore un peu entre 4 et 12 degrés. 16 et 17 degrés maximum l'après-midi en Méditerranée.